Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, dans cette démarche tout à fait particulière qu'est l'ésotérisme à l'époque moderne. On peut l'appeler expérimentale puisqu'elle est à la radio, à la télévision, sur Internet, alors qu'autrefois c'était réservé qu'à des gens qui se regroupaient dans des écoles privées. On pourrait dire ça comme ça aujourd'hui, mais pensez à l'école de Pythagore. Et sur le fronton de l'école, il était marqué « Nul n'entre ici, s'il n'est géomètre ». Ah ah! Oui, parce que l'ésotérisme, à une époque très ancienne de l'Antiquité grecque, c'était déjà une approche scientifique de la réalité humaine. Vous savez, les trois grandes questions existentielles. D'où vient l'être humain? Pourquoi est-il ici sur Terre? Et surtout, où ira-t-il après la vie ici sur Terre, après la mort? Les religions ont tenté d'apporter des réponses à plusieurs de ces questions existentielles. Hein? Alors, on apprend qu'après la mort, il y aura le paradis. Dans les différentes religions, les paradis ne sont pas tout à fait de même nature, mais ça correspond peut-être à une quête que l'être humain a ici sur Terre, limitée dans cette forme de prison de l'espace-temps. Et quand on en sera sorti, on sera libéré de l'espace-temps pour l'éternité, hors du temps. Si on compare la religion versus la science, on se rend compte que, effectivement, la science utilise un langage presque universel qu'on va appeler la mathématique. Il faut savoir que le mot mathématique est d'origine grecque et qui veut dire science, connaissance, apprentissage, mathéma. Mathématikos, toujours du grec, qui veut dire qui aime apprendre. Désigne donc l'étude des modèles, des structures, de changement et d'espace. Ça, c'est le langage de la science, la mathématique. Mais la religion utilise le langage des mots, de l'écrit. On parle des textes sacrés. Hein. C'est curieux de voir comme les deux chemins qu'utilise l'être humain pour répondre aux grandes questions existentielles sont très diamétralement différent, que ce soit par l'écriture. L'écriture, c'est quoi? Ce sont des lettres qui, mis bout à bout, créent des mots pour faire des phrases, pour finalement, dans la matière, exprimer l'idée, la pensée. Alors, on est capable de concrétiser notre pensée par l'écriture qui peut demeurer des siècles. On dit qu'il n'y a pas un iota de changé dans les textes sacrés, surtout chez les Hébreux, puisque le iod, qu'on a traduit par iota, la plus petite lettre, on en parlait la semaine dernière avec l'école Jedi de Yoda dans Star Wars, la guerre des étoiles, la plus petite lettre qui est comme un apostrophe, c'est tout petit, bien ça, même ça, on n'a jamais oublié un, on n'a jamais modifié la transcription des textes sacrés. Et ça fait partie même de la discipline dans la religion juive de recopier la Torah intégralement, sans n'y changer évidemment qu'un iota. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un chemin vers la limite de la connaissance humaine. La limite de la connaissance humaine, quand on pense à la religion, ben c'est Dieu. Alors, on interprète Dieu de différentes façons selon sa culture, son origine et l'époque. Le Dieu avec la barbe, et puis qui était un peu comme dans la chapelle Sixtine dépeint par Michel-Ange, comme celui qui est sur un trône et qui tend la main vers l'être Adam, qui lui tend le doigt pour qu'il y ait un éclair entre les deux. Mais il y a aussi le Dieu de la métaphysique ou des gnostiques, qui est l'absolu des absolus, qui n'est pas évidemment anthropomorphe, qui n'a pas l'apparence d'un être humain, mais qui est plus de l'énergie. D'autres diraient la force, comme on disait la semaine dernière avec la guerre des étoiles, que la force soit avec toi, que Dieu soit avec toi. Oui, mais au-delà de cette démarche religieuse à la découverte de Dieu, l'interprétation de Dieu, la définition de Dieu, il y a pour les hommes de science actuellement, à notre époque, un mur presque infranchissable par la matière, Ils sont obligés d'utiliser des outils spirituels, avec l'intuition, avec l'imagination, pour entrer aux confins même de la matière, à la limite de la matière, qu'on appelle la physique quantique. Eh oui, j'ai bien parlé de physique quantique, alors que d'autres vont l'appeler la physique quantique. En fait, le mot « quantum », qui veut dire « quantité », « paquet », correspond d'ailleurs à la notion de base de la physique quantique. On s'est aperçu que toute l'information qui est transmise dans la matière vient par paquet. Quand on utilise Internet, on sait que la transmission des data, des données, est faite par paquet. Certains paquets s'en vont dans une direction par les hubs et d'autres vont aller dans une autre direction et vont se retrouver à la bonne adresse, votre IP de votre ordinateur, et chez vous, dans votre ordinateur, les paquets se remettent en place et ça redevient complet, cohérent. Vous savez, quand on utilise la langue française, anglaise, allemande, n'importe laquelle, on utilise des paquets de lettres qu'on appelle des mots. Dès que j'utilise quelques mots comme « quelque », le mot « quelque » vient de faire un paquet, un espace, le mot qui suit, c'était « mot », « quelques mots ». Le mot « mot », c'est un autre paquet, « M-O-T-S ». Alors, le paquet de ces quatre lettres-là s'est placé dans le bon ordre pour que la phrase soit cohérente. Sinon, on est complètement perdu, on ne sait plus où on s'en va. Alors, pour comprendre la physique quantique, il faut savoir mettre de l'ordre dans les paquets d'informations qui sont à la fois physiques, matérielles, hein, puisqu'on parle de matière. Et quand on touche à la physique quantique, quand on va aux confins du début de l'univers, il faut connaître la base même de la matière. Et vous savez, on l'appelle les atomes, atomos, qui voulait dire insécable à l'époque des Grecs. Ils pensaient, eux, que les atomes, c'était la plus petite particule de matière. Aujourd'hui, on est rendu avec la physique moderne à parler de quarks, les fermions, même le boson de Higgs a maintenant sa place, puisqu'on l'a vraiment retracé dans le CERN, dans le grand accélérateur de particules. Qu'est-ce que le boson? Le boson, c'est une particule qui n'a pas de masse et pourtant qui se manifeste. Pour l'expliquer, on utilise par notre imaginaire, et j'espère que vous avez beaucoup d'imagination, parce que dans l'ésotérisme, il y a trois qualités fondamentales. La première, c'est la patience. La patience, ça joue sur le temps, mais il faut prendre le temps pour graduellement aller d'étape en étape, donc dans l'ordre des choses. On n'est pas au cinquième étage avant d'être passé par le premier, deuxième, troisième, quatrième étage. Deuxième, c'est l'imagination. Et l'imagination demande beaucoup d'intelligence, parce que, en fait, l'imagination nous oblige à aller faire des références, soit par analogie, par rapprochement avec des connaissances qu'on a déjà acquises. Et quand on parle de connaissances, il y a une différence entre la connaissance et le savoir. Le savoir, c'est l'information brute. La connaissance, ça veut dire naître avec le savoir qui est associé à de l'expérience. Savoir et expérience deviennent de la connaissance. Et savez-vous que la connaissance, donc du savoir, des informations à l'état brut, appliqué à de l'expérience, on a vécu la chose, on est comme né avec, on connaît la chose. Alors, je peux vous dire que je sais que le premier ministre du Québec est un tel ou une telle, mais je ne la connais pas ou je ne le connais pas. Pour dire que je le connais, c'est que j'aurais entré en expérience avec la personne. Sinon, c'est une information à l'état brut, le savoir. L'expérience qui vient avec me permet de dire « je connais ». C'est la connaissance. Et la connaissance, quand on sait comment l'appliquer et à quel moment l'appliquer, dans le bon moment, le temps, ça devient de la sagesse. Une façon simple de définir des mots qui sont utilisés à tort et à travers parfois. Et ici, avec notre démarche d'ésotérisme expérimental, c'est d'abord et avant tout de mettre de l'ordre dans toutes ces informations qui, depuis le Nouvel Âge, circulent partout à travers le monde. La semaine dernière, on parlait de la guerre des étoiles. Il y a deux semaines, je vous proposais une démarche en métapsychologie, où on a compris que le métapsychologue est celui qui va au-delà de méta, comme métaphysique au-delà du physique, en métapsychologie, au-delà de la psychologie comportementale de l'être humain considéré un peu comme un rat de laboratoire. Il y a trois semaines, c'était sur les définitions de ésotérisme, exotérisme pour l'extérieur, éso pour vers l'intérieur, et je proposais la démarche isotérique. Vous vous souvenez? Alors, je vous recommande d'aller écouter les podcasts qui sont disponibles ici sur cette radio et aussi sur Internet, sur mon site. C'est disponible à esotérisme-exp.com. Alors donc, j'en reviens à cette physique quantique qui fait rêver beaucoup de monde, incluant les physiciens les plus terre-à-terre qui ont perdu leur latin, on pourrait presque dire, parce qu'il y a des phénomènes qui se produisent en physique quantique qui ne s'expliquent pas de manière logique, qui ne correspondent même pas aux dogmes de la science traditionnelle. La science traditionnelle, vous savez comme moi, elle a beaucoup évolué, elle a bien été obligée de s'adapter aux découvertes qui sont faites, souvent grâce au développement de certaines technologies, de certains artefacts. Et vous savez comme moi qu'à une certaine époque, c'était la Terre qui était au centre de l'univers. Et après, on est arrivé à comprendre que le Soleil est au centre du système planétaire qui inclut la Terre. Et avec Nassim Haramein, dernièrement, on réalise que même le Soleil, qui se déplace dans la galaxie, il fonce à toute vitesse dans la galaxie, donc les planètes qui tournent autour du Soleil ne reviendront jamais à la même position. J'entendais, il n'y a encore pas tellement longtemps, Charles Disset qui disait à l'émission Découverte, bien, qu'à tous les ans, la Terre revient à la même place dans le système solaire. Oui, si on se réfère encore avec le Soleil au centre, on revient à tous les ans, à l'automne, à l'hiver, à la même place. Vous savez que pour l'hémisphère nord de la planète, c'est l'hiver que la Terre est la plus proche du Soleil. Pourtant, il fait froid. Oui, parce qu'elle est inclinée. Et l'inclinaison est dans une mauvaise direction. Donc, on est moins sujet au rayonnement solaire direct, perpendiculaire à la surface de la Terre. Parlant de la Terre, vous savez que la Terre est ronde. Je ne l'apprends pas à personne. Mais avez-vous remarqué que nos planchers de nos maisons sont parfaitement droits? Ils ne sont pas incurvés. Ils ne suivent pas la rotondité de la Terre. Le plancher est tout à fait droit. On prend un niveau qui est toujours de niveau. Qu'il soit ici en Amérique, en Europe, en Chine, nos planchers sont tous de niveau. Alors comment comprendre que la Terre est ronde? Et que lorsqu'on est sur notre plancher, le plancher est parfaitement droit. Il n'est pas incurvé. Vous allez me répondre, ben oui, mais c'est parce que ce n'est pas à la même échelle de grandeur. Ah ah! Vous comprenez déjà les problèmes qui apparaissent lorsqu'on entre dans une autre échelle de grandeur pour les physiciens qu'on va appeler la physique quantique. Les particules subatomiques. Plus petite que l'atome insécable, l'atome est formé lui-même de particules, les électrons, les protons, les neutrons, mais encore plus petit, il y a les quarks, il y a les bosons de Higgs dont je parlais tantôt, et qu'on représente, pour finir l'image par votre imagination, le boson, c'est un peu comme dans une piscine, le fait qu'il y ait une accumulation dans le déplacement de l'eau, dans la piscine, qui crée des vagues, il y a une augmentation de pression. Et cette augmentation de pression dans la réalité phénoménale de notre univers, sans qu'il y ait nécessairement d'objet qui soit en déplacement dans la piscine, l'objet, c'est de la matière. Et le boson, qui ne possède aucune masse, mais qui a une présence, qui fait que le déplacement de l'eau va créer une masse d'eau. Mais ce n'est pas une masse indépendamment de la nature même de l'eau. Alors, on entre, grâce à la physique quantique, dans l'univers nouménal, qui n'est pas dans l'univers phénoménal. Et là, on y perd notre latin. Pourquoi un plancher tout à fait droit sur une surface ronde? Pourquoi un boson de Higgs se manifeste comme une vague sur l'eau, alors qu'il n'est pas un objet qui déplace l'eau? Il peut être quoi alors? Il peut être du vent. Il peut être du vent qui crée les vagues sur l'eau. Et le vent, c'est une des prérogatives reconnues comme de l'esprit. Quand l'esprit souffle, vous vous souvenez de la formule? Alors oui, les religions nous apportent des réponses qui peuvent être très utiles pour le monde de la science. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Un invité qui est à Paris, qu'on va entendre grâce à Skype, de courtes entrevues, de courts extraits de l'entrevue qu'il nous a accordée, et qui est, l'entrevue est disponible maintenant dans la salle du Club Créé de notre site d'ésotérisme expérimental. Il se nomme Noureddine Yayabé, physicien atomiste d'origine algérienne qui vit en France, qui a travaillé au centre nucléaire de Saclay et qui vient de publier un livre étonnant, Le code caché des miracles de Jésus. Et mon deuxième invité, qui lui est en studio avec moi, que je connais depuis très longtemps, qui va se révéler juste après la pause qui vient, il se nomme Denis Harting, et qui navigue, pour reprendre l'image du boson de Higgs, sans aucune pression, sans aucune... mais il est là, une présence, à travers différents pays, différents congrès, des études qu'il fait en dehors des universités et qui vont le conduire peut-être à une révélation extraordinaire qu'il va nous faire. Après la pause, on rencontre ces deux invités très spéciaux, un physicien évidemment sorti des universités et l'autre qui est en cheminement, un cheminement qu'il suit pour des raisons presque, je dirais, vitales. Vous allez bien comprendre quand on va le rencontrer. Après la pause.
Là, j'invite un peu le public de Montréal et puis ceux qui nous écoutent. L'exposé qui va suivre est une invitation en fait à un voyage insolite, périlleux, aussi bien par ses enseignements que par ses promesses et ses interrogations. Donc nous allons partir des questions fondamentales de la science et les controverses entre savants butant sur les limites indépassables des principes, pour ensuite un peu risquer, si j'ose dire, une incursion majeure dans un monde nouveau, malgré qu'il est consigné dans les écrits depuis plus de 2000 ans, mais jamais exploré sous cet angle original en fait. Il s'agit des miracles de Jésus, les codes qui leur sont sous-jacents. Nous reviendrons ensuite à la science pour voir leurs effets sur les limites fondamentales, avec quelques applications dans le domaine de la médecine.
Oh là, des applications dans le domaine de la médecine. Nous venons d'entendre Noureddine Yayabé lors de la conférence qu'il nous a accordée via Skype, de là la moindre bonne qualité de l'enregistrement sonore. Mais j'ai ici en studio Denis Harting, qui lui aussi est impliqué dans cette médecine quantique, comme on pourrait appeler, par l'instigateur russe qu'il connaît bien depuis plusieurs années. Il se consacre corps et âme à ses travaux, à ses recherches, et lui-même est peut-être un peu le cobaye de ce monsieur. Alors, Denis Harting, bienvenue à notre rencontre d'ésotérisme expérimental.
Ah ben bonjour.
Alors Denis, dis-moi donc, il s'agit de qui en Russie qui, semblerait-il, utilise la médecine quantique?
Grigori Petrovitch Grabovoy.
Voilà, Grigori Petrovitch Grabovoy. Est-ce qu'il est physicien?
Oui, docteur en physique, en mathématiques, en médecine. Il y a un paquet de titres de honorifiques, je pourrais dire, ou de reconnaissance au niveau des académies. Il y a beaucoup, beaucoup de titres.
Alors, qu'est-ce qu'il t'enseigne? Parce que ça fait déjà plusieurs années que je sais maintenant que tu es vraiment impliqué dans cette démarche.
Mm-hmm.
Explique.
Bien, il y a l'aspect médical dont tu parles, justement, qui est la guérison de toutes les maladies. Pour lui, toutes les maladies sont de l'information, une information parasitaire, une information qui n'est pas la norme, qui n'est pas... un peu comme d'autres en parlent aussi, c'est qu'on ramène les choses à leur norme, à leur état originel. Donc ça, c'est l'aspect de la médecine. Mais pour lui, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va même dans la gestion des événements, c'est-à-dire la création dirigée des événements de la réalité. En gros, ça peut se résumer à ça.
Alors, comment est-ce que tu as découvert ce personnage qui est en Russie? Et puis, comment est-ce qu'il peut aujourd'hui agir sur ta santé et tout ça?
Bon, écoute, pour dire très rapidement, c'est que j'ai découvert les recherches de Grigory Grabovoy en m'intéressant à d'autres scientifiques qui, après ça, j'ai découvert que c'était des élèves de Grigory Grabovoy, mais qui avaient aussi leurs recherches indépendantes. Et ces gens-là s'occupaient beaucoup au début de ce que j'apprenais, en tout cas au départ, de la régénération des organes et de la guérison des maladies d'une façon systématique, en utilisant des technologies qui sont des technologies de l'âme, de l'esprit et de la conscience pour, par exemple, guérir des maladies comme le sida, le cancer, quatrième stage.
La panacée universelle. Oui. Alors, tout ça est concentré sur ce qu'on pourrait appeler de la médecine quantique.
Quantique, oui, tout à fait.
De quelle façon est-ce qu'on peut l'appliquer à la physique quantique?
Bien, parce que, justement, c'est dans le sens de l'information. Toute chose est un objet d'information. N'importe quoi, là, une table, moi-même, le plancher sur lequel je me tiens, tout ça, ce sont des objets d'information.
Donc, nos organes, évidemment.
Tout, oui,
alors,
oui.
Quand il y a un cancer, la tumeur est une information.
Une information qui
quand tu dis une information, on pourrait l'appeler en anglais data, ou en informatique.
Données,
ou données,
data, canevas, tout ça.
Alors, la physique quantique derrière l'information, on le sait, amène des nouvelles perceptions que les physiciens n'avaient pas avant. Entre autres, on va parler de la dualité d'ondes-particules.
Oui.
Est-ce que c'est une onde? Est-ce que c'est une particule? Je parlais des vagues sur l'eau tantôt avec le boson de Higgs. Est-ce que finalement, les données, les data sont des ondes, des vagues, ou des particules qui ont une masse automatiquement?
Mm-hmm.
Ça, c'est un des problèmes de la physique quantique. Il semblerait que parfois, ça a des ondes, parfois, c'est des particules. Pour la même chose, pour la même réalité.
Mm-hmm.
On parle aussi du principe d'incertitude d'Heisenberg.
Oui.
Alors, qui veut dire que...
Qui veut dire que les choses n'ont jamais vraiment un déterminisme total, que c'est toute une question de probabilité, de, tu sais, qu'on peut pas prévoir les probabilités. Mais, en fin de compte... À moins qu'on y intrigue ou qu'on y ajoute la conscience humaine, qui serait l'observateur. Et là, à ce moment-là, l'improbabilité devient plus probable. C'est-à-dire qu'on détermine les probabilités par l'observation.
Alors, là, le témoin change...
La réalité.
La réalité. Dans Star Wars, on disait justement que Yoda disait « Ta concentration définit ta réalité. »
Tout à fait.
Alors, on est dans la physique quantique encore.
Total.
On parle aussi de l'intrication, c'est-à-dire la non-localité d'une particule. Elle peut être à un endroit, mais elle peut être aussi à un autre endroit. Il faut être témoin pour dire oui, elle est ici, parce que tant qu'on n'en est pas témoin, elle peut être aussi ailleurs.
Exact.
Et l'intrication, ça va même rajouter un élément qu'on pourrait presque appeler de l'empathie entre deux particules, parce qu'une est ici, l'autre peut être aux confins de l'univers. Et si elle est intriquée, elle va réagir à celle qui est sa sœur, ici, si on veut, qui a créé une empathie, un lien d'union entre les deux particules. D'un bout à l'autre de l'univers, instantanément, quand on affecte une particule d'ici, celle qui lui est intriquée, à l'autre bout de l'univers, réagit instantanément.
Est-ce que c'est pas ça, quelque part, qui n'est pas la base de tous les sentiments humains, la compassion, l'amour, etc., etc. Quand quelqu'un ressent ce qui se passe à distance d'un autre, alors qu'il n'est pas à l'endroit où l'autre est, puis qu'il va sentir une mère avec son enfant, un couple, c'est vraiment un phénomène d'intrication.
On parle un peu de télépathie, hein,
oui.
D'empathie.
Et oui.
Mais la physique quantique oblige les scientifiques d'aujourd'hui à commencer à prendre en considération des valeurs qu'on pourrait appeler spirituelles.
Oui, tout à fait.
Tu es d'accord avec ça?
Absolument.
Hein? Alors, on va réécouter encore un passage de la conférence donnée par M. Nouridine Yayabé, immédiatement.
L'hypothèse que j'ai faite, c'est qu'il y a tant de controverses entre les savants des sciences, et si on n'arrive vraiment pas à une solution, c'est qu'il existe un univers invisible que nous sommes incapables de voir. Donc la question, c'est comment le révéler ou le ressusciter. Et donc la réponse qui vient des sciences, c'est une barrière des limites fondamentales. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire qu'on ne peut pas, si on se base uniquement sur les sciences, les mathématiques et la physique, il est impossible de repousser les limites fondamentales. Donc le mot résurrection, que vous voyez apparaître ici, c'est un mot clé. Et c'est lui qui va souffler comme cet ouragan sur tout ce que nous connaissons et qui va nous emmener aux évangiles. Parce que le mot résurrection est un mot qui est très spécifique aux évangiles. Il n'y a qu'un seul être dans l'histoire de l'humanité qui a procédé à ces œuvres d'envergure, c'est seulement Jésus.
Le mot est lâché, le mot résurrection. Et Denis Harting, qui connaît bien Grigori Petrovitch Grobovoy en Russie, a prétendu avoir lui aussi réalisé des résurrections. Est-ce que c'est vrai?
Oui. Selon ce qu'il dit lui-même, il y a eu des commissions parlementaires, gouvernementales, scientifiques pour vérifier ses travaux, parce qu'au début, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scepticisme.
Mais il me semble, Denis, qu'on entendrait parler dans les médias à travers le monde qu'il y a quelqu'un qui ressuscite les morts.
Oui, à moins bien sûr qu'on contrôle les médias, puis qu'on contrôle ce qui rentre puis ce qui sort.
Toi, tu n'as pas été témoin de ça encore?
La seule personne qui est proche de moi à qui c'est arrivé, c'est celle qui nous a donné les permis, les licences pour enseigner même au niveau international ce que Grigori enseigne. Et elle a procédé à la résurrection d'un de ses amis lorsqu'elle restait à Boston. Elle l'a vu en Russie et il était rajeuni selon ses propres dires.
On fait la pause, on réfléchit à tout ça et au retour de la pause, on va entendre Nouridine Yayabé, que j'ai rencontré et qui est en France, pour connaître le code secret qu'utilisait Jésus pour ses miracles, entre autres la résurrection de Lazare. Nous sommes de retour à Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Cette musique nous rappelle un peu le Moyen-Orient il y a 2000 ans. Et nous parlons de la physique quantique applicable à la médecine aujourd'hui. Alors, avec Denis Harting en studio, nous allons maintenant écouter Nouridine Yayabé, la façon dont il présente de manière mathématique le code caché, j'allais dire le code secret de Jésus pour la résurrection, entre autres le fameux cas de Lazare.
Allons-y.
Lazare est très malade et finalement il ne va pas tout de suite. Il attend 2 jours. Exactement 2 jours. Alors ça c'est quelque chose qui est très bizarre parce que un être normalement normal, si j'ose dire, quand il entend parler de quelqu'un qu'il connaît, qu'il apprécie, qu'il est malade, il demande après lui, il va tout de suite à son chevet. C'est pas du tout la réaction de Jésus. Jésus, il attend que Lazare meure. C'est quelque chose d'assez incroyable, ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le quatrième jour pour le ressusciter.
Il était tellement mort depuis longtemps qu'on dit qu'il commençait à sentir la décomposition.
Tout à fait, oui.
Ouais. Alors, on peut pas croire que c'est une NDE, là, une near-death experience, là, où on réveille quelqu'un qui, après une crise cardiaque, est comme mort, mais il revient à la vie, mais lui, il était complètement mort, là, il est en train de se décomposer après 4 jours, là, dans les pays chauds, là.
C'est exact, c'est juste, oui. C'est absolument ça. Et donc, voilà ce qu'on constate, ce que les évangiles, en fait, rapportent. Ça veut dire qu'il faut chercher dans toutes les œuvres miraculeuses quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose qui apparaît, c'est que Jésus utilise le nombre d'or. Alors si on fait le tout, le nombre d'or, comment il est? Comment on essaie de le cerner? Le tout.
Grégory Grand-Barvoy, il est dans un état où il reçoit directement. Et donc, il est en réception directe, il est en fusion, si on veut. Et pendant qu'il parle, il y a des choses qui se passent. Alors, dans certaines de ces conférences-là, le nombre d'or est apparu sur les écrans de télé. Parce que la façon que les conférences sont...
Oui, mais ce n'est pas lui qui le mentionne.
C'est préparé. Il ne le mentionne pas explicitement, mais il en parle implicitement. Okay. Donc, parce que pour lui, toutes les mathématiques solutionnent les problèmes du monde.
OK. Donc, ça veut clairement dire que le nombre d'or... associé au miracle, comme à la résurrection, c'est vraiment la découverte de Noureddin Yahyabé présentement. L'autre l'a peut-être mis dans ses conférences en diapositive, mais ça ne nous montre pas qu'il l'a intégré parce qu'il ne l'a pas mentionné spécifiquement comme Noureddin l'a fait.
Oui, je vais te répondre sous toute réserve.
Okay.
Je n'ai pas vu d'écrit ou de message audio ou vidéo disant ça d'une façon spécifique. C'est pour ça qu'on va le garder comme une ouverture, OK? Parce que je ne te dis pas non, mais en l'absence d'informations autres, je vais te dire que c'est peut-être quelque chose qu'on va garder en...
Ben, ça t'aurait jamais échappé, Denis, ça t'aurait jamais échappé.
Ça m'aurait jamais échappé.
Et là, quand tu as entendu Noureddin nous parler du nombre d'or, qui est le code caché des miracles de Jésus, ça t'aurait complètement allumé en disant « Grégory dit la même chose ». Non. Grégory parle de résurrection aussi, mais il n'est pas spécifiquement au nombre d'or.
Moi, ce que j'ai l'impression, puis c'est juste mon impression en fait, c'est que le nombre d'or était sans doute le code, sans aucun doute, le code que Jésus a utilisé. Peut-être que ce que quelqu'un comme Grégory Grand-Barvoy, qui est comme, on va dire, une version moderne, modernisé de toute cette science-là, initiatique-là, fait, c'est qu'il fait à la fois une simplification et en même temps une spécification des méthodologies. Parce que dans le livre qui s'appelle « La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité », il donne pas le moins de 50 méthodes de résurrection. Et dans celle-là, il n'est pas fait spécifiquement mention du nombre d'or. Mais en même temps, si on lit entre les lignes, on va se rendre compte que c'est toujours quelque part un petit peu lié. C'est-à-dire qu'il va souvent dire que les mathématiques peuvent être utilisées pour gérer la réalité. Or, si on ajoute, puis on compare, puis on complète avec ce que Noureddin Yahyabé dit, bien c'est tout à fait logique, parce que avec le nombre d'or, Jésus justement utilisait le nombre d'or et tout ce qui s'y rapportait, le nombre d'apôtres, ici et ça, pour arriver à performer ces miracles.
On écoute un court passage avec Noureddin que je recevais justement il y a 2 semaines ici au Québec, via Skype. La qualité, évidemment, du son est moindre que si on était en studio en face à face. Mais écoutons un peu justement ce dont tu viens de parler, la quantité d'apôtres pour réussir des résurrections comme celle de Lazare, entre autres.
Là, je vais présenter une autre surprise qui m'a moi-même surpris. C'est les choix finalement des constantes et le nombre d'or, finalement. On va essayer de comprendre pourquoi Jésus utilise les 3 apôtres et pourquoi il attend le 4e jour. Là, carrément, on va utiliser un petit peu de mathématiques. Si on prend par exemple Lazare et on prend l'attente délibérée de deux jours, et ce paramètre, on va le faire entrer dans cette équation. X sur Y égale Y sur X moins Y. Et là, on va tomber sur deux solutions. 3,23 qui définit le quatrième jour, et c'est là où il intervient. Et ça, c'est une équation qui donne le nombre d'or. Et 5,23, c'est le sixième jour, ça veut dire depuis le début. Et là, on retrouve les choix de Jésus. Finalement, les choix de Jésus, pourquoi est-ce qu'il choisit le quatrième jour pour intervenir? Et c'est absolument, absolument fabuleux, c'est que c'est solution d'une équation du nombre d'or qui est là. Quand on injecte le nombre d'or dans cette équation avec le paramètre 2 jours, on trouve exactement que Jésus doit intervenir au quatrième jour et que le total des jours qu'il doit comptabiliser est de 6 jours. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il ne l'a jamais dit à ses apôtres, mais c'est exactement ce qu'il fait. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant.
Formidable comme découverte. Mais qu'est-ce qu'est le nombre d'or? Ça ne sera pas facile, Denis, à expliquer à la radio ce qu'est le nombre d'or, puisqu'il s'agit de proportions dans de la géométrie. Et on pense souvent que ce qui est symétrique est beau, alors qu'en réalité, ce qui est symétrique est comme statique, ne bouge plus. On dit même qu'un visage d'un être humain, si on veut le considérer comme beau, harmonieux, il faut que le côté gauche, le côté droit ne soient pas tout à fait semblables. Sans ça, on n'est pas agréablement attiré par la symétrie parfaite. Donc, le nombre d'or n'est pas de la symétrie, c'est de l'asymétrie dans la géométrie, si on veut. Et on a découvert que le nombre d'or, on l'appelle, je pense, la géométrie sacrée, non, on l'appelle...
Bien, ça fait partie de la géométrie
la
sacrée.
La divine proportion.
Oui, la divine proportion, la mesure d'or, la règle d'or, etc., etc.
Et ça implique donc un mouvement, un dynamisme.
Oui.
Et on ira jusqu'à dire, c'est le nombre vital. On l'appelle phi. Tu sais, la lettre pi, c'est 3,1416, et le nombre d'or, c'est la lettre phi. Et la lettre phi, le nombre, 1.618033988877, et ça continue. C'est vraiment une proportion. Et oui. comment la radio, là, vous l'expliquez, comment vous faire un nombre d'or? Alors, il suffit d'abord de faire le dessin d'un carré. Vous faites un carré parfait, là, un carré dont quatre côtés identiques. À la base du carré, au milieu de la base du carré, vous faites un point et vous le reliez à l'un des points d'en haut, des coins d'en haut du carré. Alors, vous voyez que du milieu de la ligne d'en bas du carré, vous faites une diagonale qui va jusqu'au coin supérieur du carré. Et cette ligne diagonale, vous vous servez du point central de la ligne d'en bas comme le centre d'une circonférence. Et vous glissez le point qui est à la croisée des lignes en haut du carré, et vous la descendez sur l'horizontale de la ligne d'en bas. Donc, vous avez fait comme un quart de cercle. Et c'est ça qui va devenir le rectangle d'or. C'est-à-dire que de votre carré, vous avez prolongé la base de votre carré sur la ligne d'en bas du carré de la longueur qui dépasse lorsque vous descendez la diagonale qui partait du milieu de la ligne d'en bas du carré, qui allait rejoindre le coin du carré en haut, et vous le descendez comme si c'était la diagonale, comme si c'était un rayon. Et vous descendez cette ligne qui va devenir la longueur étirée du carré pour devenir finalement la base d'un rectangle. Et là, vous montez le rectangle à la hauteur du carré pour faire finalement un rectangle un rectangle d'or qui va avoir les proportions du fameux nombre d'or, phi, 1.618. On va s'en tenir à ces trois premiers chiffres-là, ce n'est pas un numéro de téléphone, mais ça semble être quand même une règle qui nous permet d'entrer en relation avec la vie, le mouvement, le dynamisme, au lieu d'être dans des formes symétriques, statiques, qui ne bougent pas.
Oserais-je dire l'éternité?
Vivante.
Oui, mais l'éternité, pour moi, c'est le processus ininterrompu de création. Donc, tout est toujours en création. Le nombre d'or assure la base de toute création. Tout ce qui est créé porte le nombre d'or. Parce qu'à un moment donné, tu m'as arrivé avec ton histoire de dissymétrie, mais d'harmonie en même temps. Ben, ça va être un voyant donc, c'est ça. C'est justement l'idée de la géométrie sacrée.
Parfait.
D'ailleurs, dans Toth, je te le dis, il est question des solides de Platon comme instrument pour faire des tests d'enfants psy. Quand je te dis, là, je sais qu'est-ce que tu vas aimer, je sais qu'est-ce que je peux te recommander. Puis quand je le recommande, c'est parce que je l'ai checké avant. Et ce que je veux dire, c'est que c'est justement Grégory ne jure que par la géométrie sacrée. Toutes ces technologies ont un rapport avec ça. On utilise des sons.
C'est quoi Toth?
Toth, c'est les liens invisibles.
Non, mais c'est une série de télévision.
C'est une série de télévision dont d'ailleurs il y a une troisième saison qui est en train d'arriver à la demande parce qu'au début, il était supposé en faire juste deux. Supposément parce que les codes d'écoute n'étaient pas assez bonnes, mais ça, moi, j'en crois pas un mot. Une série vraiment extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu une série américaine de ce type-là, jamais au grand jamais, parce que ça deal autant avec le spirituel qu'avec le scientifique. Mais d'une manière vraiment fusionnée, là, vraiment. OK? Puis ça tourne tout autour de l'histoire d'un petit gars de 11 ans, autiste, qui parle pas, qui communique pas avec son entourage, ni avec son père, jusqu'à temps que son père communique avec lui par le moyen, le seul, qu'il veut utiliser. Pas parce qu'il n'est pas capable, il ne veut pas parler.
C'est quoi?
C'est les chiffres.
Par les chiffres?
Par les chiffres. Mais il faut que tu comprennes, il voit des chiffres, là, c'est ce qu'on comprend au début, il gribouille des chiffres sur un petit bout de papier, puis gna, puis il me grimpe en haut des tours de cellulaire pour écrire des chiffres, toujours les mêmes, hein? Et on finit par comprendre que ce que lui, il perçoit par un savant qui a travaillé sur ce genre de cas-là, c'est qu'il voit la suite de Fibonacci, il voit le nombre d'or, il voit les structures de l'univers sous forme de chiffres et de formes. On va comprendre plus tard que c'est sous forme de chiffres autant que de formes. Très audacieux pour une série, moi, t'sais. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les chiffres qu'il transmet à son père, qui maintenant est capable de communiquer avec lui par les chiffres, pour résoudre des situations de conflit dans le monde. Et il fait que du monde se touche. Il fait que du monde se rencontre. Peu importe où ils sont dans le monde, ils se touchent, ils se rencontrent.
Ah, c'est pas ça le titre, Toth.
Et des situations vont être réglées. Vraiment comme un petit Grégory qui va aider les gens à se sauver eux-mêmes ou à sauver le monde qui est autour d'eux autres. Moi, personnellement, c'est que je la connaissais pas, cette série-là. J'étais dans un salon, Mirror's Eye, genre style harmonie ou je sais pas quoi. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais aller voir ce gars-là, il fait des inventions, blablabla. Je vais voir ce gars-là, je commence à y parler de Grégory, puis il fait, hey, dis-toi, tu connais pas la série Toth? Je vais te, non, pas en tout. Il dit, il commence à me l'expliquer. Je vais te, non, attends une minute, là, il faut que je la trouve, puis ça presse. Je vous le jure, j'ai commencé à l'écouter, juste vu les trailers du début, puis tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? OK? Ils l'ont fait deux saisons, ils sont en train d'en faire une troisième. Les deux saisons, ils te montrent vraiment que ce qu'il est recherché ici, je te le dis pour te donner une primeur, c'est qu'ils cherchent ce qu'ils appellent la séquence d'Amelia. Et la séquence d'Amelia, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît la suite de ce que lui, Jake, le petit gars autiste, il voit. OK? Il y en a d'autres qui voient les mêmes choses qu'eux autres. Ils font partie. Écoute, il y a même question de la cabale juive dans cette histoire-là. Des 36 justes. Ils vont très loin, mais ça passe comme rien. Puis nous, on pense tous que c'est un peu idéaliste parce que, tu sais, il rend toutes les situations positives. Les gens sortent trop. Puis gna 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 gna. Puis... Mais les réflexions du petit gars au début et à la fin de chaque épisode, c'est à... vraiment. Des fois, c'est émouvant, c'est triste. Des fois, c'est très, très philosophique.
Est-ce qu'il fait référence souvent au nombre d'or?
Oui. Oui. Tu le vois même le faire. avec des téléphones cellulaires qui alignent tout ensemble. Puis là, il aligne les téléphones cellulaires, puis ça fait 1,618.
Qui est le fameux nombre d'or.
Le nombre d'or, le fameux nombre d'or. Puis il l'explique dès le début.
On fait une pause, Denis, oui. Puis après ça, on va parler d'un autre film que tu nous suggères fortement.
Oui.
Je ne dis que Lucie.
C'est ça.
Si je peux résumer un petit peu, je dirais que d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, on a revisité le concept de phénomène de la philosophie grecque, qui a fondé les sciences depuis le 5e siècle. On a aussi procédé à une redéfinition du miracle en théologie. Ça veut dire qu'on lui a donné une dimension accessible à la raison. Ce n'est pas seulement un acte consigné d'un intérêt historique. Et on a aussi découvert que les miracles de Jésus sont régis par un nombre d'or, par le nombre d'or. Donc, deuxième groupe de découvertes, en fait, c'est la science nous dit qu'il est impossible de dépasser les limites des principes d'incertitude. Ces limites sont fondamentales et mathématiquement établies. Donc, on a vu qu'on est parti de l'hypothèse qu'il existait un univers invisible, porté par les phénomènes qu'on peut révéler par les codes de Jésus. C'est donc la première fois que le nombre d'or intervient dans les équations pour limiter, pour repousser encore plus loin les limites fondamentales pour obtenir ce qu'on appelle la super haute résolution, parce qu'on a dépassé le principe d'incertitude de Heisenberg. Donc, il y a des possibilités absolument ouvertes pour les sciences fondamentales. C'est un bond qui est en avant pour la médecine en général et la quantique en particulier. Et aussi, nous avons un impact sur la philosophie et la vision du monde qui découle de ces travaux. Je remercie l'ensemble des personnes ici présentes qui ont eu l'amabilité de m'écouter.
Nouridine Yayabé, il est en train de s'en aller dans le chemin radical que moi je trouve intéressant, OK? De justement avec la médecine quantique et c'est ça. La raison pourquoi j'ai accroché sur Grégory, puis je te le dis à toi, c'est parce que j'ai eu un appel d'âme extrêmement fort. Ça a été très, très fort. OK? Avant même que je sache qui était, ça m'a dit à l'intérieur de moi, c'est ce que tu cherches depuis que tu es au monde. Et quand je l'ai vu, quand j'ai vu cette chose-là, ça a fait oui, je comprends qu'est-ce que je cherchais. C'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais. OK? Parce qu'il va à des niveaux, même Richard, là, je ne t'ai même pas expliqué, certains concepts qu'il fait passer, tu fais comme, mais mon Dieu Seigneur, comment tu as fait pour arriver à ça? Comment tu as fait pour arriver à ça? Et il y a une façon de l'expliquer en te disant, vous savez, si vous compreniez, vous pourriez tout faire ça, vous pourriez faire toutes les affaires que je fais, vous pourriez matérialiser des objets, dématérialiser... Là, tu fais comme, coudonc, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais ça se peut pas, là. C'est trop simple en même temps, puis c'est trop complexe en même temps. OK? La science est tellement hors de cette époque-ci que même à notre époque, il y a des gens qui ne la comprennent pas. Et parce qu'ils ne la comprennent pas, ils brûlent sa place publique, comme on a fait avec Copernic, comme on a fait avec Galilée, puis compagnie, puis Nikola Tesla. OK? Mm-hmm. S'il y a eu, à l'époque, des maîtres qui sont venus puis qui ont apporté de la connaissance, il n'était pas plus divin que je l'étais, il n'était pas plus divin que tu l'es. Il faut enlever cet aspect-là de déification ou de démonisation de n'importe qui. On est tous divins ou on ne l'est pas. Point. OK? Ça, c'est ma première chose. Deuxièmement, n'est qu'à regarder tout ce que les autres qui ont travaillé avec lui disent de ce qu'ils ont trouvé. Des académiciens qui ont travaillé avec lui. On voit un produit pour ce qu'il est. On voit un arbre à ses fruits. Et quand tu regardes jusqu'aux gens qui sont très objectifs et qui n'ont pas à prouver quoi que ce soit, sinon que c'était exact, puis qui arrivent aux mêmes conclusions, c'est comme, ben là, que quelqu'un dise, par exemple, s'il réussit toujours à faire les mêmes diagnostics, toujours exacts, c'est parce qu'il doit avoir la connaissance de lois de l'univers que nous ne connaissons pas ou qu'on n'a pas encore commencé à comprendre.
C'est peut-être les lois de la physique quantique, justement, avec toutes les implications qu'on a compris que la physique quantique... Et au-delà de la physique conventionnelle parce qu'elle est dans une autre échelle de grandeur.
C'est
le plancher qui est toujours bien droit sur une planète qui est ronde.
C'est ça.
Mais c'est juste une question d'échelle de grandeur.
Ou de niveau de conscience.
Oh oui, que j'aime.
Parce que s'il y a un niveau de conscience, toi, tu penses que les choses qu'on dit religieuses sont juste spirituelles. Peut-être qu'un autre niveau de conscience, elles sont totalement scientifiques et exactes. Tu comprends-tu? Et c'est là, pour moi, que c'est venu me bouleverser. Puis quand j'ai lu La résurrection et la vie éternelle, je te jure, j'ai lu le livre une fois, j'avais pratiquement rien compris du livre, il m'a bouleversé totalement. Il m'a complètement brassé à l'intérieur de moi. J'ai jamais lu un livre de ce type-là, ni avant, ni après, j'en ai jamais trouvé un autre. Alors, mais pour comprendre ça, il faut comprendre ce que ça dit. Mais qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est expliqué?
Parle-moi donc de le film Lucie.
Ah ben là, écoute, le film Lucie va exactement dans cette ligne-là. Parce que ce film-là raconte en fait l'histoire d'une femme qui est avec un homme peu recommandable, un gars, une espèce de malfrat, là. Mm-hmm. Ils sont dans une petite place, pour le moins de... Je pense que c'est Taïwan ou quelque chose comme ça. Un pays asiatique. Et ils se font pogner dans une histoire. Une histoire dans laquelle elle doit aller porter un paquet avec une poudre bleue, ce qu'on va comprendre plus tard. Il faut qu'elle aille porter ça... Il faut qu'elle aille chercher ça à la réception, qu'elle aille porter ça à quelqu'un. Au début, ils demandent de faire ça. Et c'est ça l'histoire au début, c'est qu'elle va finir par se faire capturer avec un de ces paquets-là. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils savent juste qu'il faut qu'ils le livrent. Ils le livrent et ils réalisent que cette poudre bleue est une poudre qui donne des effets à ceux qui l'ingèrent, pensant que c'est une drogue. Mais ce n'est pas une drogue, en fait. On réalise plus tard que c'est la CPH4. Et la CPH4, c'est l'hormone que les femmes enceintes produisent à partir de l'âge de 6 semaines. Après 6 semaines de grossesse, c'est ce qui va former les os au niveau du fœtus. Mm-hmm. Donc, la CPH4, elle va être installée dans un sac, dans un de ces sacs-là, à l'intérieur de l'intestin de Lucie, qui ne se doute pas du tout de ce qui va y arriver, qui a été capturée, qui est malade, qui est quasiment en train de mourir. Mais ils vont y faire une chirurgie, puis ils vont y installer ce sac-là. Et là, il faut qu'elle ait livré ce sac-là à des endroits différents dans le monde. Et elle a la liste de tout ça. C'est-à-dire, chacun a la liste de où est-ce qu'ils doivent aller, mais simplement, on ne leur dit pas pourquoi, puis dans quel but, puis bon. Mais finalement, il y a quelqu'un qui va profiter de l'occasion pour la violer, puis la battre, et le sac, il va percer.
L'avait dans le ventre?
Oui, elle l'avait dans le ventre.
OK. Et donc, ça va se répandre dans son organisme?
Tout à fait. Et cette poudre bleue-là, qui est la CPH4, bien justement... Il y a parallèlement à ça une espèce de neurophysicien qui fait une conférence à savoir comment les gens utiliseraient leur potentiel de cerveau s'ils se développaient à 20, 30, 40, 50. Puis là, il arrête là parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas le domaine où ça l'amène. À 50% d'utilisation du cerveau.
OK.
Et pendant ce temps-là, au moment où la chose perce dans le ventre de Lucie, on voit un graphique qui montre justement ce qui se passe à chaque fois que son cerveau augmente de 10% de plus.
Elle a des pouvoirs...
Elle a des pouvoirs qu'elle développe à mesure, mais au début, elle est très, très instinctive.
Ce que nous, ici, on appelle des pouvoirs psioniques.
Oui, mais pas au début. C'est pas psionique, pas en tout. Au début, okay. Elle a faim, elle a soif, elle a envie de baiser, elle a envie de tout. Elle est très portée sur ses besoins primaires. Mais à mesure qu'elle évolue, les pouvoirs deviennent un peu plus psioniques et elle devient de moins en moins... agressif.
Là, on sait que c'est un film de fiction.
Oui.
Mais il y a peut-être un fond de vérité derrière tout ça.
Bien, ne serait-ce que par le fait qu'on utilise un élément extérieur comme la CPH4.
Oui.
C'est très intéressant. Ce n'est, en fin de compte, qu'une façon d'amener l'histoire. Mais ce qui est montré dans le film, par contre, c'est extrêmement philosophique. On voit que Luc Besson, qui est le...
Oh oui, c'est Luc Besson.
Oui, le réalisateur et le scénariste du film a le plein contrôle sur son film.
La guerre du feu, c'était
oui,
lui?
Oui, c'était lui.
Ah oui, alors c'est un homme qui va chercher des choses fondamentales dans le cinéma, des sujets extraordinaires. D'ailleurs, le mot Lucie a été pris de le premier anthropoïde qu'on a trouvé en Afrique du Sud, là, Australopithèque,
oui.
qu'on lui avait donné le nom de Lucie. Et Lucie veut aussi dire lumière. La lumière.
Alors, oui. Hein,
Incroyable.
Donc, c'est un
fou. Et Nouridine nous révèle le sens de son nom, qui est nord-africain, oui, algérien. Céleste. Nouridine, qui veut dire?
De la lumière céleste. Donc, hein, on se comprend ici. Puis, il joue sur beaucoup, beaucoup de niveaux, Luc Besson, avec ce film-là. Il va jouer autant avec les gens, avec leur conscience collective de « on baise, on mange, on fait ci, on fait ça », mais en même temps, il nous fait comprendre que c'est pour... ça sert un intérêt. Même la violence qu'on voit dans le film n'est pas gratuite. Il n'y a rien de gratuit. Pour moi, c'est un film éducatif sous forme d'une histoire.
Ben, bravo. Écoute, Denis, je suis très content de t'avoir reçu dans cette émission d'ésotérisme expérimental ici. On a fait un parallèle entre ton expérience avec... Grigori Petrovitch Grobovoï, mm-hmm. de Russie.
Mm-hmm.
Les découvertes qui sont parallèles avec Nouridine Yahyabey. Il faut que je précise au public qu'évidemment, c'était lors d'une conférence par Skype, directement transmise de Paris à Montréal. Et le tout est en vidéo, beaucoup de graphiques appuyés par PowerPoint qui sont disponibles dans la salle du club créé de notre site régulier d'ésotérisme expérimental, mais accessible seulement à ceux qui sont abonnés au club créé, le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. Et ça vous permet de voir les graphiques, de comprendre évidemment beaucoup plus longtemps, beaucoup plus de précision. D'ailleurs, il applique tout ça, le code de Jésus, comme il l'appelle. Je ne sais pas pourquoi, il aurait pu tout simplement dire « nombre d'or » appliqué à de la technologie de pointe qui permet de voir dans l'invisible, carrément, parce que ça révèle des choses qui, par justement la géométrie sacrée, nous permet d'entrer en relation avec des éléments géométriques, fréquences, vibratoires. À ce titre-là, je pourrais rappeler au public que les fréquences de son, le « la », 440, utilisé par tous les orchestres du monde, un « la » à 440 Hz. Malheureusement, ce n'est pas dans l'énergie de vie. Pour entrer dans l'énergie de vie, il faut descendre le 440 à 432 Hz. C'est ce qu'on entend maintenant. Vous voyez la différence entre le 432 et maintenant le 440? Juste cette différence de fréquence fait toute la différence entre la symétrie et l'asymétrie qui crée la vie, qui crée le dynamisme de la vie. Ben voilà, c'était un autre aspect de notre démarche que nous avons entreprise ici, à cette station de radio du mieux-être. Ben oui, sous toutes les facettes, tout à fait originales bien souvent, avec Richard Glenn, il faut s'attendre à tout. Alors c'est un rendez-vous pour... la suite de ces rendez-vous la semaine prochaine. Encore une fois, un grand merci à Denis Harting qui nous a accompagnés dans ce cheminement très spécial aujourd'hui. Merci, Denis.
C'est moi qui te remercie.
Et vous savez, mesdames et messieurs, soyez heureux, car nous avons tout autour de nous, ici et maintenant, pour être heureux. À la prochaine.